Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour Anne de Biran, vous partez où en vacances cet été ?
Secret, secret, secret. Tout simple, Boulogne-sur-Mer. Vous voyez, c'est modeste.
Ah bon, parce que mais si bah vous descendiez oui, plus au sud,
ah,
vous allez
je
voir.
Vous suis,
ouais,
je vous suis.
Faire attention avant de se baigner.
Je vous suis.
Mare Nostrum, c'est notre mer. Ce patrimoine nominatif n'empêche malheureusement pas que nous la maltraitions, cette mer qui est nôtre, car la Méditerranée est une mer quasi fermée avec très peu de courants entrant et sortant. Résultat, il faut un siècle à ses eaux pour se renouveler, ce qui en fait un écosystème particulièrement vulnérable aux activités humaines, un écosystème en état de siège. C'est pourtant un immense réservoir de biodiversité à l'abri de 7 à 8% des espèces connues, alors qu'elle ne représente que 0,3% du volume des eaux océaniques. La Méditerranée est en péril, sommes-nous en mesure de la sauver ? Est-il encore temps de sauver la mer Méditerranée ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et au chevet de notre mer, hein, Mare Nostrum avec un N et un M majuscule pour prendre son pouls, effectuer le diagnostic et peut-être, on l'espère, prescrire les remèdes. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Richard Sempéré. Bonjour. Vous êtes océanologue, géochimiste au CNRS, directeur de l'unité de recherche MIO, M-I-O, à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie et co-coordinateur du programme MERMEX, hein, dont nous allons reparler dans quelques instants. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-François Guillion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer, responsable de l'équipe écotoxicologie et ingénierie microbienne marine et coordinateur du projet Plastique Micro, dont nous allons également parler au cours de cette émission. Vous pouvez nous suivre évidemment comme chaque jour sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, en 2011, Roland Courteau, qui est sénateur socialiste de l'Aude, préconisait un plan d'action en 10 points pour sauver la mer Méditerranée. Et ce rapport qu'il a rédigé stipulait que si rien n'était fait, un point de non-retour serait atteint en 2030, 6 ans après, ce rapport c'est donc en 2011, 6 ans après, qu'en est-il ? Est-ce que ce point de non-retour en 2030 c'est encore une réalité ? Est-ce que des progrès ont été faits ou est-ce qu'au contraire la situation a empiré selon vous, Jean-François Guillion ?
On ne peut pas faire autrement que de faire le constat d'une augmentation exponentielle des pressions humaines sur la mer Méditerranée, depuis les 50 dernières années au moins. Les espèces qui vivent en Méditerranée sont effectivement en danger. Elles font face à des modifications profondes de l'écosystème marin, à la fois à cause du changement climatique, mais aussi par la diversité de plus en plus grande des polluants qui arrivent, qui sont déversés en mer. Donc le constat est effectivement alarmant, mais il existe aussi des solutions dont on aura certainement l'occasion de parler pendant cette émission.
Bien entendu. En 6 ans, depuis ce rapport, Richard Sempéré, vous diriez que la situation s'est stabilisée, ça s'est empiré, ça s'est amélioré ?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on a fait de plus en plus d'observations et de modèles qui tendent à prouver qu'effectivement, il y a un danger certain. Jean-François Guillion vient de le dire. Il faut bien séparer l'effet changement climatique et l'effet pollution lié à l'injection dans la mer Méditerranée par l'atmosphère et les rivières de contaminants. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on observe de plus en plus des contaminants dans l'océan, dans la mer Méditerranée, dans les différents échelons de la chaîne trophique. On observe aussi une augmentation de la température et parfois des modifications de circulation océanique. En tout cas, les modèles le prévoient. Donc, effectivement, il y a un danger qu'on pourra peut-être limiter, je l'espère. Mais il y a effectivement un danger qu'il est bon de considérer.
Quand on parle de point de non-retour à l'horizon 2030, ça veut dire quoi un point de non-retour ?
Alors, je ne sais pas si c'est 2030 réellement le point de non-retour. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des modélisateurs qui étudient la circulation océanique de la mer Méditerranée, vous savez, qui est très particulière. Alors, brièvement, ce qu'on peut considérer, c'est que la mer Méditerranée, c'est comme un océan miniature, c'est-à-dire qu'il y a des apports d'eau qui viennent par le détroit de Gibraltar, de l'Atlantique en surface, des apports d'eau par la mer Noire. On a des apports de rivières qui sont très importants. Mmh. Et surtout, on a un système de tapis roulant, de circulation thermohaline. Alors, c'est-à-dire que ces différentes entrées, cette circulation de masse d'eau en surface, plus un refroidissement dans certaines zones, au nombre de 3 approximativement, une dans le golfe du Lion, une autre en Adriatique, une autre dans la mer plus orientale, eh bien, en hiver, on va avoir un refroidissement de ces eaux de surface. Et ce refroidissement va impliquer une augmentation de densité. Et cette augmentation de densité va faire plonger les masses d'eau de la surface vers les zones intermédiaires et profondes.
Ces refroidissements, ils sont liés à quoi ?
Alors, ils sont dus simplement au refroidissement hivernal. Donc, ce sont des zones de convection. Donc, par exemple, si on parle de celle du golfe de Lyon, du Lion, on a ce refroidissement qui implique cette plongée d'eau de surface vers les zones de 1000 mètres ou 2000 mètres et qui s'accompagne d'une remontée d'eau intermédiaire ou profonde qui sont riches en sels nutritifs. Donc, on voit que cette plongée d'eau et cette augmentation et cette remontée d'eau de fond qui est riche en sels nutritifs conditionne toute la productivité, en tout cas une bonne partie de la productivité de la Méditerranée. Donc, si on modifie le réchauffement, s'il y a un réchauffement dans cette zone de surface, eh bien, on va modifier cette stratification et modifier ce système de tapis roulant, de circulation thermohaline. Et ça, les modélisateurs le prévoient pour la fin du siècle, dans des proportions de 40% environ.
Ça signifierait quoi concrètement, Jean-François Guillon, ce non-retour ? C'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème s'effondrerait, on assisterait à une désertification, à une disparition massive des espèces, à une extinction, à un changement de nature des populations de la faune et de la flore sous-marine ?
Alors il y a effectivement l'aspect réchauffement climatique avec la circulation thermohaline qui va effectivement pouvoir être perturbée par les grands changements climatiques, mais il y a aussi, comme le disait Richard Champéret, en fait tous les apports des différentes molécules qu'on amène qui sont déversées finalement en mer, et les pressions sont variées. Et effectivement, on sait que, peut-être qu'on va les lister, en fait, ces différentes pressions.
Bien sûr, on va en parler dans quelques minutes.
Ces différentes pressions, en fait, peuvent avoir un impact très important sur la biologie marine. Et on sait que l'impact est important. Le point de non-retour, en fait, il est toujours difficile. On parle de résilience, en fait, d'un retour à l'état initial où tout irait bien et tout ce qui a été perturbé reviendrait vers quelque chose qui irait bien. On ne sait pas vraiment, enfin moi j'ai en tout cas pas la réponse de savoir comment l'écosystème va vraiment réagir par rapport à toutes ces pressions, parce qu'elles sont tellement variées que c'est très difficile en fait. On arrive très bien à connaître l'impact d'une pression, mais l'impact de multipressions, en fait, c'est dans les grands projets des différents instituts de recherche, de savoir quel est l'effet de multipolluants sur l'écosystème. Et là, aujourd'hui, on a très peu de réponses.
Richard Sampéré, c'est ça le point de non-retour, c'est l'incapacité de la mer Méditerranée à se régénérer, à venir à un état hanté où tout allait bien, en quelque sorte. C'est son incapacité à se réparer, en quelque sorte, si on devait résumer.
En tout cas, je ne sais pas si on peut parler d'incapacité, mais il est clair qu'on va vers quelque chose qui sera différent. L'augmentation de 2 degrés amène forcément un écosystème qui sera différent.
Plus les différentes pressions et les différents polluants dont nous allons parler dans quelques minutes. J'aimerais effectivement qu'on dise, vous avez commencé à le faire, Richard Sampéré, à décrire un peu les particularités de cet écosystème, parce que, je le disais en présentation, c'est finalement tout petit volume d'eau à l'échelle du globe, 0,3% du volume des eaux océaniques, et pourtant qui recèle une immense biodiversité. On parle de 7 à 8% des espèces connues. Quelles sont les caractéristiques de cette mer Méditerranée, les caractéristiques océaniques, topologiques, comment la décrire et comment en décrire les spécificités, Richard Sampéré?
Donc on a parlé de cette circulation thermohaline qui conditionne le développement de la production primaire, donc le premier maillon de la chaîne alimentaire qui amène au développement du phytoplancton. Ce qu'on peut considérer, c'est que c'est une mer qui est globalement pauvre. Elle est plus riche néanmoins dans sa zone occidentale que dans sa zone orientale, où elle est beaucoup plus pauvre à cause d'une limitation en phosphate qui limite le développement du phytoplancton et donc des échelons supérieurs de la chaîne trophique. Donc ça, c'est une caractéristique. Donc, il n'empêche qu'on trouve néanmoins toutes les sortes de phytoplancton, zooplancton et d'espèces de poissons, mais ce n'est pas une zone qui est vraiment riche si on compare par rapport à l'océan mondial. Une autre caractéristique physique, c'est que la température dans les eaux profondes n'est jamais en dessous de 12 degrés. Quand on regarde l'océan global, dans les zones très profondes, on atteint des températures inférieures à 3-4 degrés, voire 2 degrés. Ce n'est jamais le cas en mer Méditerranée. On descend jamais en dessous de 12 degrés.
La profondeur de la mer Méditerranée, pour donner un ordre de grandeur?
En moyenne, c'est 2000 mètres pour la Méditerranée. C'est 4000 mètres pour le reste de l'océan
global. Pour le plancher océanique.
Voilà. Une autre caractéristique, qui est physique aussi, et qui va déterminer un peu la réponse et un peu l'évolution de la mer Méditerranée, c'est l'apport important des rivières, qui est proportionnellement plus important que dans le reste de l'océan mondial. Les rivières sont importantes en mer Méditerranée, elles amènent beaucoup de carbone et comme l'a dit Jean-François, des contaminants également. Et une autre caractéristique finalement aussi, c'est l'apport atmosphérique. Alors on sait qu'on a des apports de poussière industrielle essentiellement du nord et des apports de poussière saharienne qui viennent du sud.
Et on va en parler dans quelques minutes au cours de notre reportage. Vous dites que c'est une mer globalement pauvre, alors c'est plutôt contre-intuitif puisque malgré tout, elle abrite quand même cette grande diversité par rapport à sa taille. Comment comprendre cette pauvreté par rapport à cette biodiversité marine? On parle en plus de nombreuses espèces endémiques, 25% du total des espèces qui seraient endémiques à la Méditerranée. Comment comprendre
Non, je parle de pauvreté en termes plutôt de biomasse, mais pas en termes de richesse d'échelon trophique. C'est vrai qu'il y a des milliers, plus de 17 000 taxons en mer Méditerranée. On sait aussi qu'il y a plus de 1000 taxons qui sont d'origine étrangère à la Méditerranée, par contre, hein, qui viennent de l'extérieur. Mais voilà, je parlais plutôt de ce type de pauvreté, mais pas certainement pas au niveau des espèces. Oui.
Ce qu'il faut préciser aussi, et ce qui est propre à ce système, c'est que la mer Méditerranée, pour dire en quelques mots, hein, elle date de 5,5 millions d'années, elle s'est refermée, elle s'est quasiment asséchée complètement jusqu'à se rouvrir suite à un événement sismique assez cataclysmique il y a 5 330 000 ans, ce qui explique parfois des couches sédimentaires de sel minéraux de 2 km sur les profondeurs qui ont pu être carottées il y a assez peu de temps. C'est un système à évaporation, Jean-François Guiglione. C'est-à-dire que finalement, les apports et des fleuves et pluviaux et les entrées maritimes dans le détroit de Gibraltar ou la mer Noire ne compensent pas l'évaporation de la Méditerranée.
Oui, tout à fait. En fait, on sait bien que les courants qui vont arriver, donc l'eau qui va arriver de Gibraltar, plus elle va aller à l'est, en fait, plus il va y avoir un phénomène d'évaporation. Et les eaux de l'est sont beaucoup plus salées que les eaux de l'ouest. Et on va avoir ce phénomène d'évaporation sur toute la Méditerranée, puisque c'est, comme vous le disiez, en fait, une mer fermée. Donc, faut imaginer ça comme une cuvette avec une entrée d'eau, et forcément, il va y avoir une évaporation importante qui donne une salinité plus importante que dans les océans classiques.
Cette quasi-fermeture, ça, vous diriez que ça la fragilise plutôt, ou que, au contraire, ça peut précisément la renforcer en permettant au système de se développer dans un espace fermé?
Bon, à la fois, la nature s'est bien développée là-dessus, puisque effectivement, on a beaucoup d'espèces connues dans cette petite mer. Donc, les espèces se sont toujours adaptées à cette petite mer. Par contre, on sait que la mer Méditerranée, comme les pôles, est particulièrement sensible au réchauffement climatique. Et la mer Méditerranée, eh bien, c'est une des mers qui est la plus polluée de tous les océans mondiaux.
La plus polluée, l'une des plus polluées ou la plus polluée? On lit souvent que c'est la mer la plus polluée de tous les océans mondiaux.
Je ne sais pas si c'est la plus polluée. Il y a des zones dans le sud-est asiatique qui sont très polluées, proches des grandes cités chinoises, par exemple, où on a des pollutions de contaminants très fortes. Mais c'est vrai que cette particularité, comme ça vient d'être dit, est liée au fait qu'on a un temps de résidence faible, quand même de 80 ans. Donc en fait, la mer Méditerranée va intégrer assez rapidement l'impact de la modification de la composition de l'atmosphère et des apports de rivières.
Un temps de résidence faible, c'est-à-dire
C'est-à-dire que le temps de renouvellement de la mer Méditerranée va être de 80 ans.
Oui, d'un siècle.
On va retrouver très rapidement en mer Méditerranée les signes du changement climatique et anthropique.
Et on va parler de ces différentes pressions très fortes qui sont exercées sur cette mer Méditerranée. Mais avant cela, on va parler aussi on va continuer à parler un peu justement de ces caractéristiques. Vous les évoquiez tout à l'heure, Dom Sampere, ces apports atmosphériques. Bonjour Céline Dezen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Parce qu'on peut dire en quelque sorte qu'effectivement la Méditerranée est ensemencée, notamment par le Sahara. Vous êtes allé, Céline, au CEA de Saclay pour prendre contact avec une mission océanographique qui est en cours en plein cœur de la Méditerranée.
Oui, je suis allée au laboratoire Sciences du Climat et de l'Environnement pour suivre les avancées du projet Peacetime. Début juin, une quarantaine de chercheurs d'une équipe internationale sont partis à bord du navire Pourquoi pas. Ils ont pour mission d'étudier l'impact des poussières en provenance du Sahara sur l'écosystème marin. Moi, j'ai rencontré François Dulac, qui est resté à Paris et qui surveille quotidiennement la météo. Sa mission à lui est de guider l'équipage qui sillonne la mer par satellite pour voir les endroits les plus stratégiques.
La Méditerranée est une mer qui est très pauvre en éléments nutritifs et en particulier en azote et en phosphore qui sont les bases de la chaîne alimentaire marine. Et là, du coup, l'apport atmosphérique, donc des retombées de poussière qui sont transportées depuis les continents, peut avoir une influence importante sur la quantité de nutritifs disponibles. Et en particulier, donc maintenant qu'on est dans la saison chaude, on a beaucoup d'éclairements solaires, donc l'eau de mer se stratifie thermiquement, l'eau chaude en surface, l'eau froide au fond. Du coup, il n'y a plus de mélange avec des eaux profondes. Et la vie marine qui est en surface, là où il y a de la lumière, elle utilise les nutritifs disponibles. Et donc, c'est l'apport atmosphérique qui peut apporter un surplus d'éléments nutritifs.
Vous, votre rôle, c'est un peu de superviser cette campagne, de donner des informations en temps réel aux équipes qui sont sur le terrain, sur les conditions climatiques, sur les zones les plus intéressantes à aller explorer.
Voilà, alors avec deux collègues de Météo France, en fait, on fait une surveillance de la situation atmosphérique. Donc, on fait une analyse quotidienne des dernières prévisions et des dernières observations. Une petite synthèse avec des recommandations qu'on envoie au bateau tous les jours avec l'équipe à bord sur les recommandations à suivre. Le parcours, en fait, il a été défini sur des conditions hydrologiques et biologiques. On cherche à faire des mesures dans des zones contrastées à l'échelle du bassin. C'est le bassin ionien, on a des eaux qui sont plus pauvres que celles qu'on a dans le bassin occidental et puis des profondeurs aussi de mer qui sont supérieures. En fait, de façon générale, en Méditerranée, plus on va vers l'est et plus les eaux sont pauvres en éléments nutritifs et du coup en chlorophylle. En ce qui concerne les poussières désertiques, là, malheureusement, depuis que le bateau est parti, il est confronté à des situations météorologiques qui ne sont pas du tout favorables à ses transports. On est dans des flux de transport de masse d'air européenne depuis le nord. Et donc, on a très peu de matière en suspension et on n'a pas encore vu d'épisode saharien.
Typiquement, on a des cartographies du bassin méditerranéen. Et qu'est-ce qu'on peut y voir dessus?
Alors, ces cartes météo-là nous montrent le flux atmosphérique, en gros. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, depuis quelques jours, on a une situation un petit peu bloquée dans laquelle il y a des poussières sahariennes qui sortent, mais plutôt sur l'Espagne. Et par contre, toute la zone dans laquelle est le bateau actuellement, qui est plutôt entre la France et l'Italie, est sous l'influence d'un flux de nord qui est relativement stable depuis plusieurs jours. Ce que je vais indiquer aux équipes à bord, c'est qu'on a un bon espoir là, de revoir des poussières sahariennes au début du mois de juin sur l'ensemble du bassin méditerranéen occidental.
Je pense que c'est eux.
Bonjour.
Alors, on est en mer ionienne, on a passé le détroit de Messine, qui est le détroit entre la Sicile et l'Italie, hier soir. On a fait pendant toute la nuit des relevés en tirant ce qu'on appelle un poisson à l'arrière du bateau. Et on a relevé ce poisson en arrivant en station. Et quand on arrive en station, le bateau est immobilisé. Alors, le but de la station, c'était de relever un flotteur.
C'est un espèce de robot. C'est un robot qui fait des mesures automatiques entre 1000 et 0 mètres et qui transmet les données quand il est en surface. Donc, il fait une partie des mesures, une petite partie des mesures qu'on est capable de faire avec un bateau. Mais ça nous permet quand même de faire un peu de savoir qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive avec le bateau.
Alors, on mesure la température, la salinité, qui sont vraiment les paramètres de base en physique océanique. Et ensuite, ces flotteurs sont équipés de capteurs qui donnent des données biologiques, un équivalent de la chlorophylle, donc c'est une mesure de fluorescence, et puis aussi une mesure de la matière organique qui est dans l'eau de mer. Et là, le but de la station ce matin, c'était de faire des mesures pour calibrer tous les paramètres qui sont mesurés avec le flotteur, pour voir si, en gros, il marche toujours bien au bout de 2 ans de déploiement.
Donc, on est toujours, y a rien de neuf, hein, on est toujours sur ces flux de nord, là, dans votre zone. Ce que je vois avec les modèles, en fait, on peut penser qu'on devrait avoir un front de précipitation associé à la masse, au front d'air saharien et qui va nous faire descendre des poussières.
Donc, en fait, ça veut dire qu'on fait tranquillement notre station ionienne sans trop de stress en disant il faut remballer et partir. et qu'on serait dans les temps pour réoccuper la station TIR à ce moment-là. Quoi.
Ça me paraît une option raisonnable aujourd'hui d'envisager ça comme ça. Ouais. Ciao, ciao. Donc on refera le point pour vérifier si la prévision qui nous dit que ça devrait aller mieux la semaine prochaine se confirme.
Voilà, quasiment en direct de la mer Méditerranée avec ce programme Peace Time, qui est un programme que vous avez, enfin qui fait partie en tout cas du programme Mermex que vous avez co-coordonné, Richard Sampéré.
Oui, je ne suis plus coordinateur du programme, mais je l'ai été. Et j'étais très heureux en tout cas d'entendre Cécile Gueux, qui est chef de mission, qui était aussi coordinatrice de Mermex, et mes collègues du MIO qui étaient à bord, qui sont partis pour une longue mission. Alors ce que je peux dire pour compléter votre reportage, c'est que finalement ils ont réussi à capter ce nuage de poussière saharienne qui a atteint plutôt la zone occidentale de la Méditerranée, contre toute attente. Et ils ont pu faire les expériences qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire enregistrer les retombées atmosphériques du Sahara, les analyser et ensuite étudier l'impact que ça peut avoir sur le développement du phytoplancton. Parce que la question scientifique est là. Quel est l'impact de ces retombées atmosphériques sur le développement du phytoplancton ? Parce qu'on sait que dans l'avenir, on sait qu'il va y avoir aussi une modification de la circulation atmosphérique.
Et que donc, ça va avoir des répercussions.
On sera vers quelque chose de différent là aussi.
Jean-Rosa Guiglione, une réaction à ce reportage que vous venez d'entendre ?
Oui, ça illustre bien en fait la façon dont la recherche océanographique fonctionne aujourd'hui. En fait, on est vraiment dans une recherche multidisciplinaire, il faut forcément en fait avoir des et multi-instituts. Hein, je pense immédiatement au CNRS, l'IFREMER, l'IRD, les différentes universités, etc., qui arrivent à vraiment travailler ensemble. Et c'est ça qui est vraiment plaisant quand on va en campagne en mer. On se retrouve avec de nombreux chercheurs qui ont des disciplines très variées, et on arrive au final à faire une belle cartographie de ce qui se passe dans le milieu, et ce qui nous permet de dire vraiment si effectivement c'est le sujet du jour, est-ce que la Méditerranée est en danger ou pas, quels sont les apports, etc.
Des différentes formes de matériel qui arrivent et qui rentrent dans cette mer Méditerranée. Nous allons voir précisément dans quelques instants que tout ce qui vient de la Terre, comme cette poussière du Sahara, n'est malheureusement pas toujours bon, bien au contraire, pour l'équilibre de cette mer Méditerranée presque fermée.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h22, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de la mer Méditerranée et des différentes pressions qui sont exercées sur cette mer fragile qui recèle une riche biodiversité, comme nous venons de l'expliquer dans cette première partie d'émission. Nous en parlons avec Richard Sampéré, qui est océanologue, géochimiste au CNRS, et Jean-François Guiglione, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer. Alors, avant de chercher à discerner les causes et d'évoquer les solutions à déployer pour sauver cette mer Méditerranée, commençons peut-être par un constat: perte de biodiversité drastique, pollution par micro et macro déchets plastiques, par des rejets chimiques, le réchauffement climatique, ce sont toutes les pressions qu'évoquait Jean-François Guiglione tout à l'heure. Est-ce que la Méditerranée est devenue vraiment cette décharge marine à ciel ouvert que l'on décrit de plus en plus, Jean-François Guiglione?
Alors, c'est difficile de répondre vraiment dans ce terme-là, mais effectivement, quand on fait nos missions océanographiques, on se rend compte en fait qu'on fait forcément le constat d'une augmentation des quantités de déchets qui sont présents. On arrive très bien à les cartographier. On sait qu'il y a une expédition récente de Tara Méditerranée qui a été réalisée pendant 7 mois, où on a fait tout le tour de la Méditerranée et on s'est rendu compte que tous les prélèvements étaient contaminés par des microplastiques. Donc ces déchets-là, on en entend beaucoup parler, ils sont effectivement très importants, mais c'est pas les seuls, c'est évidemment pas les seules pressions qu'il y a en Méditerranée. Elles sont très variées.
Est-ce que par exemple on a quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur, que ce soit, ou peut-être plutôt que des chiffres qui sont pas forcément significatifs, quelle est selon vous la principale menace qui pèse, quelle est la principale pression de toutes ces pressions qu'on évoquait, entre les déchets, les polluants chimiques, le réchauffement climatique, la surpêche, il y a beaucoup de pression humaine, selon vous, Richard Sampéré, quelle est la plus grave, si tant est que ce soit facile?
Je pense qu'elles sont toutes effectivement sérieuses. Personnellement, il me semble que l'impact du réchauffement climatique est quelque chose de majeur en Méditerranée et dans l'océan mondial et sur la planète d'une façon générale. Et qu'il est assez difficile de le contrôler. On parle d'une limitation à 2 degrés à la fin du siècle, voire certainement de 3 degrés. Et on sait que ça va avoir des impacts majeurs. Encore une fois, sans faire de catastrophisme, on va vers quelque chose de différent. Hein, sur la circulation des masses d'eau, des masses d'air et des écosystèmes. Alors après, on a l'impression, alors peut-être est-ce simplement une impression, c'est que la pollution chimique, on peut peut-être plus facilement la contrôler. On a vu que quand on voulait interdire certains produits chimiques qui étaient insérés dans la fabrication de certains objets, on arrivait à le faire. Et par contre, il fallait un suivi politique et économique derrière, suite au message des scientifiques. Mais on a quand même l'impression qu'on peut arriver à le faire de façon plus aisée. Je dirais que l'impact que jouer directement sur le climat. Mais il n'empêche qu'on doit effectivement agir sur les deux. Mais la pollution chimique est quelque chose de sérieux. Alors, sans parler même de quantité, hein, il faut savoir que des contaminants organiques, c'est du nanogramme par litre, par exemple, hein, une molécule de phtalate ou un biphénol. Donc c'est un milliardième de gramme dans un litre d'eau de mer qui comprend déjà 38 grammes de sel en soi. Mais il n'empêche que ça a des effets quand même importants sur le métabolisme des organismes, toute leur physiologie.
On a trouvé une étude du WWF de l'an dernier qui date de 2016 montre des concentrations de perturbateurs endocriniens anormalement élevées chez des espèces de pleine mer, et c'est ça qui était pointé par le rapport, hein, chez des rorquals, des cachalots ou des globicéphales en pleine mer, c'est-à-dire éloignés des côtes, et on a trouvé des concentrations de perturbateurs endocriniens 2 voire 3 fois supérieures au seuil habituel ou au seuil en tout cas toléré.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les microplastiques dont on parlait à l'instant contiennent eux-mêmes des additifs. Alors, ce qu'on appelle les additifs sont des molécules qui vont leur conférer des propriétés de flexibilité ou inifugeantes, par exemple, aux matériaux plastiques comme les phtalates ou d'autres composés. Et en plus, ces microplastiques peuvent absorber sur leur surface d'autres polluants organiques. Et voyager, ils peuvent absorber ces polluants organiques, mais également des espèces vivantes, hein, dont pourra parler Jean-François. Donc quand ces organismes, des organismes marins absorbent ces microplastiques, ils absorbent non seulement de matériaux plastiques, mais également ces molécules phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens sérieux. Donc effectivement, dans cette étude que vous citez du WWF, des phtalates, comme le DHEP, ont été détectés dans la chair de ces organismes. Ils sont issus probablement de matériaux plastiques.
Alors, est-ce que c'était des baleines, en fait, dans lesquelles ont été vus les phtalates?
Rorqual, cachalot et globicéphale, d'après l'étude que j'ai pu consulter. Un mot, peut-être, Jean-François Guiglione, parce qu'il faut essayer malgré tout, tenter de hiérarchiser l'importance de ces menaces. Richard Sempere dit réchauffement climatique, polluants chimiques. Selon vous, quelle est la menace qu'il faut adresser de manière la plus urgente, parce qu'elle serait la plus pressante? La pression la plus pressante, si tant est qu'on puisse le dire comme ça.
J'aurais vraiment la même réponse que Richard, de dire en fait toutes ces pressions là, elles sont importantes. C'est difficile de hiérarchiser l'une par rapport à l'autre, mais c'est intéressant de vouloir le faire, hein, mais c'est je pense quasiment impossible, parce qu'elles ont toutes des pressions qui sont vraiment importantes. Là on parlait des polluants chimiques, on parle du réchauffement climatique, mais il y a aussi les activités humaines de la pêche, par exemple. La pêche aujourd'hui en Méditerranée, on est vraiment à un épuisement des ressources qui font qu'on a un impact directement sur la biologie.
96% des stocks de poissons de la Méditerranée sont surpêchés, d'après les chiffres que j'ai pu consulter. Vous confirmez?
Oui, c'est ça. En fait, le merlu, la baudroie, le rouget, ils sont pêchés 10 fois plus que ce qu'ils sont capables de
renouveler.
De renouveler, hein, que ce soit des pêches durables. Les embarquements de pêche, ils augmentent de 4% par an, et on a une quantité de poissons qui sont récoltés qui finalement diminuent de plus en plus. Et ça produit des mutations en profondeur de la chaîne alimentaire. Et je sais que dans une dernière émission, vous parliez des méduses.
Hier.
Voilà, donc on a une gélification du bassin. Quand on est en mer, on peut se balader pendant des heures, si le bateau avance doucement, en fait, dans des bancs de méduses. Et ça, c'est assez typique en Méditerranée.
On parle même de la disparition à moyen terme, assez rapide, hein, des sardines et des anchois, parce que les stocks sont tellement surpêchés qu'ils n'arrivent plus du tout à se renouveler. Vous confirmez ça aussi?
Oui, c'est juste après. C'est vrai, en fait, on a des poissons qui vont... On parlait d'une biodiversité importante au départ. Cette biodiversité, elle est effectivement en danger à cause de cette surpêche. Et les solutions qu'on trouve aujourd'hui, elles pour qu'on continue à avoir des poissons hein, dans nos assiettes, elles vont vers l'aquaculture. Et on sait que l'aquaculture, c'est également pas une solution pour plein de raisons également, parce que ça apporte également aussi de la pollution.
Alors on va dresser un constat. Il faut le dire que le constat est assez alarmant. Donc même si effectivement c'est un peu triste à dire, mais chacune de ces formes de pression pour reparler un peu de l'influence du réchauffement climatique. C'est la mission de Mermex hein, que vous avez coordonné pendant plusieurs années, Richard Sampéré. Quelle est concrètement l'influence du réchauffement climatique sur cette mer dont vous disiez tout à l'heure qu'effectivement l'une des caractéristiques est d'être relativement chaude ou dont les profondeurs sont relativement chaudes puisqu'elles ne descendent jamais en dessous de 12 degrés. Est-ce que 1 ou 2 degrés de plus va vraiment modifier en profondeur les équilibres biochimiques de la mer Méditerranée et...
Oui, les travaux, certains collègues modélisateurs de Météo France à Toulouse, par exemple, ont montré, alors bien sûr avec des précautions, hein, ce sont des modèles qui méritent d'être améliorés. Mais on sait que, par exemple, qu'une augmentation de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est un des scénarios du GIEC, le scénario A2, pourrait induire une baisse de ces mouvements de masse d'eau, ces plongées de masse d'eau de 40% environ. Donc ce sont encore une fois des modèles qui méritent de nouvelles observations, mais qui doivent attirer notre attention quand même, parce que 40% de modification de ces échanges de masse d'eau entre le fond et la surface, ça signifie des remontées de sels nutritifs forcément différentes, des écosystèmes différents avec ce qu'on appelle des communautés de structure, c'est-à-dire une désabondance relative de phytoplancton entre toutes ces classes de phytoplancton qui vont être différentes, en tout cas, de zooplancton et de poissons. Donc on sait qu'entre 2 et 3,5 degrés à la fin du siècle, on va vers quelque chose qui devient inquiétant. C'est pour ça qu'il me semblait, quand vous parliez de hiérarchie entre la pollution et le climat, que le problème climatique est un problème vraiment majeur, en tout cas pour l'humanité. On sait qu'au-delà de 3, 4, 5, 6 degrés, on parle vraiment de problèmes très très sérieux pour l'humain sur la planète. Il faut le savoir.
Pour l'humain et puis qui sont plus sensibles, surtout dans ces zones, comme vous le disiez, qui sont quasiment fermées et effectivement beaucoup plus sensibles, comme les pôles le sont, au réchauffement climatique. Jean-François Guillon, un mot justement sur ce réchauffement qui a déjà commencé. Enfin, ça ne date pas d'hier. On a déjà constaté un léger réchauffement des eaux de la mer Méditerranée.
Oui, j'aurais envie de faire un témoignage d'une récente expédition en Corse sur la goélette Tara, qui pour l'instant elle sillonne le Pacifique pour regarder l'impact des réchauffements climatiques sur les coraux. Et je suis également plongeur scientifique et donc j'ai pu voir de mes yeux en fait une île qui est magnifique avec des coraux, une grande diversité. Et puis on est arrivé vers l'île de Samoa, je me souviens, et là on a cherché des coraux partout. Et en fait, à cause du réchauffement climatique qui a augmenté un tout petit peu la température du El Niño, on était à des températures de 32-33 degrés, donc pas besoin de combinaison pour plonger dans ces endroits. Mais malheureusement, tout est mort en fait. Et on n'a pas réussi à trouver des coraux là-bas en fait. Et là, je vous avoue que quand on est remonté à bord, c'était mon premier choc climatique que j'ai vécu et on était très triste, on va dire.
Et ce type de répercussions immédiates du réchauffement climatique, vous avez pu le constater déjà en Méditerranée où il est encore un peu tôt, il y a encore un peu de répit?
Alors c'est ce réchauffement climatique, on le voit aussi avec certaines espèces invasives, c'est-à-dire qu'elles arrivent à passer par le canal de Suez et elles commencent à arriver sur les côtes sud de la Méditerranée.
Et, par exemple, quel type d'espèce?
Alors là, je ne saurais pas vous dire. Richard, tu sais toi?
Il y a des espèces de zooplancton, de barracuda que vous pouvez trouver par exemple dans les côtes en Méditerranée occidentale qui n'étaient pas présents ou peu présents jadis maintenant. Sont couramment observés.
Mais c'est un nombre d'espèces qui est considérable.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on parle parfois même de tropicalisation de la mer Méditerranée, parce qu'elle se réchauffe. Et donc, l'océan global se réchauffe. Donc, les espèces migrent vers le nord, en quelque sorte.
Et si on parle de tropicalisation de la mer Méditerranée, on parle également de polymérisation de la mer Méditerranée à cause de la démultiplication et de l'invasion des matières plastiques. On en parle tout de suite.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances, dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Voilà, vous avez évidemment reconnu la voix de Brigitte Bardot qui chante la Madrague. Il est 16h36. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons de la mer Méditerranée tout au long de cette heure. Nous en parlons pour en dresser finalement un portrait assez alarmant, parce que la mer Méditerranée est soumise, comme nous le constatons et comme nous le décrivons depuis le début de cette heure, à un certain nombre de pressions humaines. On a parlé des effets du réchauffement climatique, on a évoqué la surpêche. Nous allons parler dans quelques instants avec Richard Sampéré, qui est océanologue géochimiste, et Jean-François Guiglione, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie microbienne, et bien de la suite de ces pressions, et notamment de l'influence du plastique et des déchets plastiques en mer Méditerranée. Je cherchais tout à l'heure pendant la chanson, j'en ai profité, et retrouvé les chiffres de la baisse de la biodiversité en mer Méditerranée. On parle d'une diminution d'un tiers des populations de poissons destinées à la vente entre 1950 et 2011. On parle d'un recul des grands prédateurs de 40%, des mammifères marins aussi de 41% et des organismes du bas de la chaîne alimentaire de 23%. Donc cette diminution de la biodiversité, elle a bien commencé, elle est réelle et elle est déjà dans des proportions qui sont effectivement inquiétantes. Je le disais juste avant que l'on entende la douce voix de Brigitte Bardot, on parle aujourd'hui de polymérisation de la mer Méditerranée. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-François Guiglione?
Alors, c'est un terme qui est utilisé pour décrire l'augmentation de plus en plus importante des déchets plastiques en mer. Donc, vos auditeurs connaissent certainement le septième continent de plastique qui a défrayé la chronique. Les récentes...
qui est dans l'Atlantique Nord, dans un vortex situé
dans le Pacifique Nord.
Pacifique Nord ? Ou l'Atlantique Nord.
Je dis pas de bêtises.
Pacifique Nord, autant pour moi.
Et en fait, on a des concentrations de plastique qui sont alarmantes, parce qu'il y a une concentration à agir donc à cet endroit-là. Là, on est en train de parler de la Méditerranée. On s'est rendu compte par différentes expéditions que les concentrations de microplastiques qui étaient présents en Méditerranée étaient aussi importantes que dans le septième continent de plastique. Donc là, on est face à un constat alarmant de la quantité de microplastiques, et encore une fois de cette mer qui est particulièrement sensible. Et des résultats de nos collègues de Villefranche, notamment, ont montré que la concentration de microplastiques était équivalente à la concentration de zooplancton à peu près en Méditerranée. Donc ça veut dire que des prédateurs, donc les poissons, vont avoir une chance sur deux de manger un microplastique par rapport à manger leur nourriture classique.
Et ces microplastiques, ils se retrouvent aujourd'hui du début à la fin de la chaîne alimentaire. Ils ont complètement été ingérés, intégrés. On en retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, Richard Sampéré, partout.
Oui, effectivement, parce qu'on trouve déjà toutes sortes de tailles de plastique, hein, des sacs plastiques jusqu'aux nanoplastiques, hein, de taille inférieure largement déjà au millimètre.
Ce qu'on appelle des macro et des micro-déchets.
Voilà, tout à fait. Donc, ils sont absorbés par des organismes qui sont eux-mêmes absorbés par d'autres organismes. Mmh. Bon, ce sont des études très délicates, hein, il faut le souligner, hein, quand on parle de contaminants, de microplastiques. On doit prendre beaucoup de précautions. Il y a peu d'expérience encore. Les chercheurs découvrent encore beaucoup de choses au niveau analytique. Et il est très difficile, par exemple, d'étudier le transfert de contaminants dans toute une chaîne trophique, du phytoplancton jusqu'au poisson. Alors, de temps en temps, on arrive à obtenir des résultats, mais ce sont des analyses délicates. Déjà, parce que détecter des contaminants au niveau du milliardième de gramme par litre, c'est quelque chose de difficile. Ensuite, les extraire dans des organismes vivants dans l'eau de mer, c'est aussi difficile. Mais il n'empêche que les travaux récents, donc des collègues français et internationaux, montrent qu'effectivement, on commence à détecter partout ces microplastiques et ces contaminants organiques et métalliques également. Oui.
Ça veut dire que, pareil, comme on l'évoquait tout à l'heure avec les perturbateurs endocriniens, on retrouve cette concentration en microplastique en pleine mer. Ça n'est pas seulement dans des zones proches des côtes. Aujourd'hui, elle a été complètement battue et rebattue. C'est dans l'intégralité de la mer Méditerranée, Jean-François Guiliane.
Oui, tout à fait. Il y a des expéditions qui ont regardé en fait la distribution de ces microplastiques pour savoir s'il y avait des concentrations à certains endroits. Les expéditions ont à la fois regardé les zones côtières et les zones hauturières au large, et on trouve des microplastiques partout. On en trouve partout, et il faut savoir que c'est le problème de la pollution par ces microplastiques, c'est qu'ils ont une durée de vie qui est estimée entre 100 et 400 ans. Et comme on venait de le dire plusieurs fois en fait dans cette émission, en fait le taux de renouvellement des eaux de la Méditerranée, c'est 100 ans. Donc ça veut dire qu'on a une accumulation de ces microplastiques dans ces bassins-là, et on a une prévision d'une augmentation de 8% de ces microplastiques encore d'ici 2030. Donc c'est pas en train de s'arrêter, ça continue à augmenter, à augmenter. Donc aujourd'hui, on a des chiffres éloquents de 250 000 tonnes de plastique qui traînent en mer.
Oui, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en Méditerranée, on n'est jamais très loin des côtes non plus, par rapport à l'océan Pacifique ou à l'océan Atlantique. Donc effectivement, l'apport anthropique est toujours très prégnant en mer Méditerranée. On sait qu'il y a plus de 450 millions de citoyens qui vivent autour de la Méditerranée. On en attend 550 millions à la fin du siècle. Donc il y a une pression anthropique très forte avec des apports, comme on l'a dit, par l'atmosphère, par les grandes cités. Aussi, hein, je pense qu'il faut signaler aussi l'impact de ces grandes villes méditerranéennes qui déversent du fait de l'activité urbaine, mais aussi touristique, récréative, tout autour de la mer Méditerranée, ces microplastiques. On sait qu'on a trouvé, on l'a vu avec mes collègues du MIO à Marseille, dans la baie de Marseille, des fragments de plastique et des phtalates dans la zone profonde, non seulement en surface mais aussi au fond. Donc on suppose que ces plastiques s'accumulent, chutent vers le fond et relarguent ensuite quand ils sont sur le sédiment ces éléments contaminants que sont les phtalates.
Et on va continuer à faire rapidement le tour, parce qu'il faut penser aussi un peu à l'avenir et aux solutions, mais ce qui est aussi, on le disait tout à l'heure, assez inquiétant, c'est-à-dire, et ce qui est issu principalement, évidemment, hein, il faut préciser par exemple qu'en Méditerranée, 80% de la pollution maritime vient des terres, seulement 20% de la pollution est une pollution d'origine marine, que ce soit de la marine marchande ou de la pêche. Les produits cosmétiques et pharmaceutiques, on parle d'antibiotiques, on parle de produits qui sont déversés dans la mer Méditerranée via les eaux usées, et de produits qui sont là pour le coup directement mutagènes, reprotoxiques, et qui impactent immédiatement la faune et la flore sous-marine.
Oui, effectivement, on détecte de tout. En fait, on s'aperçoit quand on développe une méthode analytique de détection performante, eh bien, on arrive à détecter des antibiotiques, toutes sortes de médicaments. On connaît encore peu de choses sur les effets que ça peut avoir sur les organismes. On imagine que c'est pas toujours bénéfique au fonctionnement de l'écosystème. Alors encore une fois, ce qu'il faut bien voir, et je pense que le message qu'il faut garder, c'est que ça va avoir un impact, et on va vers quelque chose de différent. Donc il faut étudier ça et essayer de le comprendre et de le modéliser.
C'est pour éviter le côté alarmiste de dire on passe à quelque chose de différent et pas nous sommes en train de détruire un état existant des choses.
Pas seulement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours une évolution sur Terre. Là, le problème, c'est qu'on va trop vite, tant au niveau du climat qu'au niveau des polluants.
Et il faut préciser encore aussi la pollution aux hydrocarbures, qui n'est pas des moindres. On parle de 100 à 150 tonnes de pétrole brut. soit 150 000 tonnes de pétrole brut déversées dans la mer Méditerranée chaque année, avec des concentrations qui peuvent atteindre 10 grammes par litre dans les grands ports. Bref, ceci étant dit, nous reste un quart d'heure, on va essayer de penser quand même un peu à l'avenir et aux solutions pour traiter ces différentes pressions que subit la mer Méditerranée. Ça ne date pas, les préoccupations ne datent pas d'aujourd'hui, hein. On s'inquiète depuis de nombreuses années. Il y a une convention qui est la convention de Barcelone de 1976 qui a été amendée en 1995 pour essayer de préserver l'état de la mer Méditerranée. Cette convention, elle n'a servi à rien, il faut l'abandonner, il faut faire page blanche.
Non, je pense qu'il faut continuer. Il faut repartir sur des accords. On en parlait précédemment, juste avant l'émission. On sait que maintenant, la solution passe bien sûr par des observations et des modèles, des scientifiques, mais aussi par un dialogue. Et c'est un peu la nouvelle façon de faire des études environnementales qu'on retrouve dans les programmes environnementaux, comme Future Earth, par exemple, qui est un grand programme international qui pose les grandes questions et qui cadre un petit peu les recherches futures dans le milieu océanique et terrestre également. Donc on sait qu'on a besoin d'un dialogue avec les sciences humaines et sociales. On a besoin de comprendre pourquoi est-ce que des matériaux contaminants sont injectés en mer Méditerranée, comment est-ce qu'on peut les réduire. Et ça, c'est généralement pas le métier, en tout cas les scientifiques, les océanographes n'ont pas l'expertise pour faire ça. Donc il faut un dialogue avec les chercheurs en sciences sociales, il faut aussi un dialogue avec les ce qu'on appelle les stakeholders, les décideurs, les collectivités, les industriels, et il faut engager ce dialogue plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard, ce qu'on fait un petit peu tous, c'est-à-dire qu'on attend de produire des résultats pour engager un dialogue à un moment où il sera, où l'avancement de la pollution est déjà très avancé. Donc en tout cas, cette nouvelle façon de faire de la science, en engageant ce dialogue dès le début, considérant que c'est pas facile évidemment, en tout cas, et en tout cas une voie, certainement une voie d'avenir.
On sait que l'ex-ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a lancé l'an dernier un plan qui s'appelle le plan Méditerranée pour une croissance bleue. L'un des problèmes pour la préservation de cette Méditerranée, c'est qu'il y a 22 pays avec différents blocs continentaux, des pays avec différents types de gouvernements qui sont difficiles à coordonner. Pour ne donner qu'un exemple, peut-être le plus flagrant aujourd'hui, c'est que la Syrie est un pays riverain de la Méditerranée. Or, on voit bien aujourd'hui les problèmes que rencontre la Syrie, les problèmes politiques sur son sol. Comment faire pour aboutir à une coordination, à un programme d'action coordonné de ces différents pays pour véritablement faire avancer les choses finalement dans une temporalité relativement courte, puisqu'on l'a entendu, les premiers effets qui commencent à se sentir sont déjà là et qu'on parle de points de non-retour dans 10, 15, 20, 30 ans. Jean-François Guilliane.
Oui, c'est vraiment tous ces problèmes de pollution, c'est moi je considère qu'on fait face à un nouveau défi pour l'humanité qui doit lier en fait effectivement les chercheurs et puis les instances publiques et puis aussi nos comportements personnels. Et dans les laboratoires de recherche, on travaille actuellement on a des projets qui sont financés par le ministère directement, où on essaie de voir comment on peut produire des nouveaux plastiques biodégradables, comment on peut...
C'est le projet Plastique Micro auquel vous collaborez, Jean-François Guillaume.
C'est ça, en fait, on coordonne à l'Observatoire océanologique de Banyuls différents projets sur la dégradation des plastiques en mer, et les nouveaux plastiques qui sont dits biodégradables, on teste leur biodégradabilité en mer.
Aujourd'hui, le problème, c'est que ces plastiques biodégradables, le temps qu'ils arrivent et qu'ils remplacent les plastiques existants sur le marché, la temporalité est relativement longue. Donc là, il y a un problème d'échelle temporelle qui est un peu insoluble dans l'état actuel des choses.
Tout à fait. En fait, après, ce problème des déchets dans les océans, elle est un peu à l'image de nos sociétés de consommation. En fait, on a aujourd'hui... dans une période de consommation excessive où dans certains pays comme le nôtre, il est difficile de faire la différence entre ce qui est nécessaire et superflu. Et là, on arrive à des situations de gaspillage à la fois de l'offre dans l'industrie, mais aussi de la demande dans notre quotidien. Et l'exemple des déchets, c'est vraiment un exemple qui reflète nos sociétés de consommation. Et là, comme on le disait, en fait, il va falloir que les scientifiques fassent ce constat, mais aussi qu'il y ait du répondant d'un point de vue du ministère et également dans nos comportements citoyens.
Mais le redire et sans vouloir minimiser l'importance du changement de ces comportements, à l'échelle de la Méditerranée, on parlait de 450-500 millions de personnes qui vivent sur les bords de la Méditerranée. Changer les comportements de 450-500 millions de une personne, c'est complexe. C'est une action au long cours. Est-ce qu'il y a des entreprises plus immédiates, à plus courte échéance, qui permettraient, je pense notamment, selon l'ONU, 53% des rejets d'eau usée ne sont pas traités en Méditerranée. C'est des chiffres que vous confirmez.
Oui, tout à fait. Oui, on peut effectivement... On peut jouer sur la technique, hein. Donc on voit que ces contaminants, tous ces polluants sont amenés par les rivières, mais aussi parfois traités par les stations d'épuration qui traitent quand même globalement la partie la plus grossière de la contamination. Mmh. On ne traite pas encore dans ces stations d'épuration les éléments chimiques les plus faibles en concentration, mais qui ont pourtant des effets importants. Donc il faut développer ça, c'est certain. Il faut développer des stations d'épuration plus performante. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus de dialogue entre les scientifiques. Alors Jean-François en parlait à l'instant, mais c'est vrai qu'on l'a pas toujours fait, ce dialogue, avec par exemple les industriels. Moi je pense que tant qu'on alerte, on peut alerter tant qu'on veut les industriels et les hommes politiques sur la pollution, si on n'a pas une solution de rechange à proposer, le modèle économique est tellement fort qu'on n'arrivera pas à changer les habitudes, ou très peu. Ou alors il faudrait que ce soit alarmant. Mais le problème avec l'océanographie et le climat, c'est que c'est pas comme des maladies, par exemple, très fortes, émergentes, dont on voit les effets immédiats, mais sur le climat et sur la pollution, on le voit pas immédiatement. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue avec les industriels, qu'on propose des solutions, qu'on travaille ensemble, et qu'on propose d'autres solutions, d'autres matériaux qui sont moins contaminants. Mmh. C'est une des voies, en tout cas.
Ce que vous dites, c'est que le constat tout de même assez alarmant que l'on vient de dresser de l'état de la mer Méditerranée, ça n'est pas suffisant pour mobiliser des acteurs privés, pour changer des comportements au niveau précisément des dialogues avec les industriels, Jean-François Guiliane.
C'est pour ça que c'est facile de sensibiliser par rapport aux déchets plastiques, parce que c'est des choses qu'on utilise classiquement et on est vraiment acteur aussi dans cette pollution. On a pu voir quand même que la réglementation a modifié les choses. D'un point de vue, on a arrêté il y a eu l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Ça, l'effet va être direct.
En France,
en tout cas.
Sur 22.
Il y a quand même pas mal de pays qui en prennent la direction. Et puis, ce qu'on voyait aussi, on parlait du pétrole tout à l'heure, on avait une diminution des catastrophes pétrolières parce qu'il y avait une réglementation de plus en plus importante en fait au niveau du transport de ces bateaux. Maintenant, le problème avec le pétrole, c'est qu'on va en manquer et qu'il va falloir aller le chercher beaucoup plus loin. Et là, on a vu la pollution de BP dans le golfe du Mexique qui pose d'autres problèmes.
Après l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon.
Et qui a fait la pollution la plus importante en fait, qui n'était jamais connue au niveau du pétrole. Donc ces réglementations, elles peuvent avoir un impact, mais elles doivent évidemment, et ça c'est un peu le message des scientifiques, elles doivent pas être faites sans les scientifiques, parce qu'on a vraiment une expertise sur ce domaine-là, et on a l'impression des fois que ces réglementations arrivent de en haut, sans qu'il y ait vraiment de concertation avec les consortiums qui existent et qui sont très bien organisés en France.
Pour reparler de ce traitement des eaux usées par des centrales, des systèmes d'assainissement, parce que ça pourrait être une solution à relativement moyen terme, selon l'Union européenne, c'est un budget de 6 milliards d'euros qui serait nécessaire pour la réhabilitation des infrastructures, 2/3 pour les réseaux, 1/3 pour les stations d'épuration, et là encore avec toujours ces difficultés qui sont liées à savoir quand on donne des budgets à certains pays, à savoir s'ils sont effectivement utilisés ou non. Vous pensez malgré tout qu'il faut insister, qu'il faut financer ces systèmes de rénovation ou en tout cas d'installation, parce qu'il y a encore beaucoup de cas où il n'y a pas de système d'épuration installé dans les villes côtières?
Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut le faire. Et comme ça vient d'être dit, il faut cette volonté technique, de développement technique, mais il faut un courage politique par la suite. Il faut du contrôle. On trouve par exemple des éléments contaminants comme du DDT, alors qu'il a été interdit depuis un certain nombre d'années, plus de 30 ans ou 40 ans, parce qu'on sait que, par exemple, dans certains pays du Maghreb, il est mal stocké, même s'il est pas utilisé, ou peut-être parfois est-il utilisé, mais en tout cas, il n'est pas toujours stocké dans de bonnes conditions, donc on peut le retrouver dans l'atmosphère et ensuite dans la mer Méditerranée. Donc il faut du contrôle, il faut un relais politique après l'observation scientifique, la décision économique, et il faut vraiment qu'il y ait un contrôle sur l'épuration et sur la remédiation.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui je parlais tout à l'heure de l'accord de la convention de Barcelone, est-ce qu'il existe aujourd'hui des discussions au niveau des 22 pays, est-ce qu'il y a un plan engagé qui ne soit pas des plans nationaux de préservation de la Méditerranée, ou est-ce que c'est totalement au point mort?
Non, il y a des programmes de recherche, vous entendez
des programmes de préservation, de recherche ou de préservation au niveau des 22 États.
C'est une préoccupation, il y a des programmes européens, ça reste encore préliminaire, me semble-t-il. Il n'y a pas encore cette ambition forte de faire un constat global sur toutes les rives de la Méditerranée et de proposer des solutions.
Mmh. Ouais, je pense à la convention Marpol, en fait, qui existe sur la Méditerranée depuis des années et des années. Ça permet de travailler avec tous les pays qui sont riverains de la Méditerranée. On se rend compte quand même qu'il y a un décalage énorme entre la science qui est faite dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, évidemment. Et donc, du coup, ce décalage-là se ressent beaucoup sur ce qui se fait dans ces pays-là. Et puis, comme on parlait de la relation entre la science et l'aspect politique, on sait qu'on a pas mal d'entreprises qui sont délocalisées vers les pays du Sud, qui subissent beaucoup plus de pollution. Et là, il y a un effort important à faire parce que ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la mer, c'est que les pollutions n'ont vraiment pas de frontières. Si on va polluer dans les pays du Sud, cette pollution va arriver dans les pays du Nord aussi. Donc, c'est pas évidemment pas une solution.
Et sur des solutions qui seraient des solutions, elles, pour le coup, à très court terme, des solutions, est-ce qu'on sait, par exemple, ramasser, nettoyer, enlever les macro-déchets plastiques, les micro-déchets plastiques? Est-ce qu'il y a des systèmes de barges filtrantes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelques procédés de ce type-là qui seraient soit de manière expérimentale, soit déjà utilisés pratiquement pour essayer d'écoper un peu, en tout cas, le plus urgent, Richard Saint-Péré?
Je pense qu'on peut toujours essayer de nettoyer. Les initiatives sont louables, certes, mais... Ce qu'il faut faire,
ça peut être simplement nettoyer les côtes. On voit parfois
beaucoup
des
d'associations
très, très,
font
très
ça
abîmés.
Déjà, nettoyer les côtes. Mais il est clair qu'on a plutôt besoin d'initiatives sur les sources. Et donc changer ses habitudes et limiter les apports. Si on parle de plastique, par exemple, ou d'autres contaminants, on a plutôt besoin d'agir là-dessus. Je suis plus sceptique, malgré que ce soit bien sûr toujours louable et que ça ait certains effets dans certaines zones limitées, côtières en tout cas. Mais à grande échelle, on a plutôt besoin de limiter... l'injection de ces éléments anthropiques.
Je dirais la même chose. En fait, les solutions, elles viennent pas de la mer. Il y a eu des projets par exemple ramasser les plastiques en mer, mais la concentration qui arrive en mer est tellement importante que ces projets-là ne tiennent pas la route. Et en fait, c'est clair qu'il faut agir en amont. Et donc on parlait des plastiques, c'est un bon exemple. Il y a 90% de cette pollution qui vient de la terre. Donc le problème il est vraiment là, en fait, au niveau de la terre, au niveau des sources. On trouvera pas les solutions en mer. Les organismes qui vivent dedans n'ont pas le temps de s'adapter par rapport aux transformations qui sont en train de s'opérer en fait dans ces apports de polluants, dans ce problème de réchauffement climatique, d'apport de l'atmosphère. En fait, elles subissent tout ça et elles n'ont pas le temps de s'adapter pour répondre et dépolluer la mer.
Au niveau individuel, alors évidemment, puisque nous approchons de la saison estivale, c'est évidemment ne pas aller à la plage avec des sacs en plastique, enfin des solutions de bon sens, ne pas laisser ses ordures sur des zones côtières et puis se dire qu'évidemment tout ce qui part à un moment donné dans une poubelle va finir par se retrouver plus ou moins d'une certaine manière dans la mer. J'ai lu par exemple que même les crèmes solaires étaient extrêmement polluantes, qu'on trouve à l'intérieur des nanoparticules qui sont très nocives pour la biodiversité. Ça veut dire qu'il ne faut plus mettre de crème solaire quand on va à la plage. Richard Saint-Péré.
Oui, on trouve des nanoparticules dans ces crèmes. On trouve des tas d'éléments chimiques qui forcément se retrouvent ensuite dans l'océan. Avec des effets qui sont encore peu étudiés, mais qu'on soupçonne néfastes, certes.
Bon, alors voilà, mais il faut vous protéger du soleil, mais en même temps, il ne faut pas polluer la mer Méditerranée. C'est une équation insoluble dont nous n'avons, donc, puisqu'elle est insoluble, pas la solution. En tout cas, évidemment, soyez vigilants, soyez prudents si vous allez sur n'importe quel rivage, parce qu'on parle de la mer Méditerranée, mais tous les océans sont fragiles. Donc, soyez particulièrement vigilants si vous avez la chance de partir au bord de la mer cet été. Merci beaucoup, Richard Saint-Péré. Merci, Jean-François Guillonne. Vous pouvez, si vous habitez à Marseille ou si vous vous rendez à Marseille, cet été, allez voir une exposition. Nous en avons parlé tout à l'heure à propos de l'exposition Tara. Il y a une exposition qui a ouvert le 7 juin, qui est jusqu'à fin juillet et qui montre comment des scientifiques et des artistes ont étudié la présence et l'impact de ces déchets plastiques en mer Méditerranée. On va vous mettre le lien, c'est déjà fait, mais on va vous le remettre sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve, Étienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse d'Incan à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. Demain, nous parlerons de l'avenir de la robotique à travers l'histoire du laboratoire Boston Dynamics, un laboratoire qui vient d'être racheté par le japonais SoftBank pour un montant resté secret mais qu'on imagine faramineux. Vous verrez que ces robots de Boston Dynamics qui sont très impressionnants sont aussi parfois un peu inquiétants. Dans quelques instants, c'est la suite de la semaine à l'ombre des centrales nucléaires, la série documentaire de Lydia Benitzak, Christine Diger et Perrine Cavran. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.